When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
On les a vus lever les bras, une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu les Jeux. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leur exploit, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces Olympic Legends. Je suis Arnaud Di Pasquale, ancien tennisman médaillé de bronze aux Jeux de Sydney en 2000. Et aujourd'hui, je reçois trois légendes, trois cyclistes sur piste, Arnaud Tournant, Grégory Boget et Michael Dalmeida. Salut messieurs, ravi de vous avoir à mes côtés aujourd'hui.
Salut, salut.
Alors la première question qu'on pose à tous nos invités, c'est, alors je ne dis pas votre médaille parce que vous en avez plusieurs, à vous trois. Vous en comptez 10, c'est pas mal, c'est pas neutre hein, cette histoire déjà. Donc elles sont où vos médailles? Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous les avez mises où?
Honneur à l'ancien.
Honneur à l'ancien. Alors, je sais qu'en ce moment, il faut pas trop en parler parce qu'il y a des athlètes qui ont malheureusement eu des visites après avoir dit où ils avaient rangé leurs médailles. Donc, mes médailles attendent patiemment. Ouais, je crois que c'est une certaine judokate qui justement s'était fait voler ses médailles. Donc, effectivement, dans un coffre, quelque part et sous bonne garde.
D'accord.
Bon, pour ma part, c'est chez moi, ça c'est sûr, c'est chez moi. Peut-être pas toute la médaille de Pékin, je l'ai donnée à ma grand-mère qui est en Guadeloupe, mais pour les autres médailles, elles sont chez moi. Mais bon.
Elles ne sont pas exposées, il n'y a pas un endroit en particulier.
Non, chez moi, en fait, il n'y a pas de. Tu viens chez moi, tu dis, mais le mec, il n'a jamais fait de sport, en fait, de haut niveau. Parce que non, j'ai rien exposé, que ce soit maillot ou médaille. Parce que c'était comme ça, mais bon, pour la suite.
D'accord, et toi, Mickaël?
Alors moi, mes médailles, depuis que j'en ai une, en 2012, justement, j'ai craint ce qu'Arnaud a évoqué. Donc moi, finalement, je l'ai fait passer de main en main entre les personnes de ma famille qui les gardent chez elles. Donc là, à l'heure actuelle, je pourrais même pas dire où est-ce qu'elles sont parce que je sais pas. Donc, je pense que des fois, quand il y a des réunions de famille, bon, bah là, à cause du contexte, il y en a eu de moins en moins, mais quand ils se voient les uns les autres, bah, ils disent, bah tiens, c'est toi qui vas les garder. Ou...
Mais tu ne sais pas où elles sont, mais tu ne les as pas perdues quand même.
Non, bien sûr que
c'est
non.
Elles...
Je ne les ai pas perdues, il faudrait juste que j'envoie un message pour savoir où elles sont. Mais là, tout de suite, je ne pourrais pas dire avec certitude où est-ce qu'elles sont.
D'accord. Bon. Parfait. L'expérience olympique, on va rentrer dans le vif du sujet. Arnaud, Grégory, vous avez connu des médailles par équipe et en individuel. Alors, je ne sais pas si on peut comparer, mais c'est quoi pour vous le plus beau? Est-ce qu'il y a une différence?
Pour ma part, non. Il n'y a strictement aucune différence. Je sais que c'est un discours qui est parfois étonnant à entendre, mais j'ai éprouvé autant de plaisir à travers tous les partenaires de l'équipe de France que j'ai connus, qui sont aujourd'hui des champions reconnus. J'ai toujours eu autant de satisfaction à monter sur un podium par équipe que sur un podium perso. La difficulté, elle est là parce que quand vous êtes dans la roue d'un Grégory Boget, d'un Florian Rousseau, c'est pas une chose facile parce que les gamins ils vont vite, hein, donc il faut pouvoir les accrocher. Et c'est surtout que pour moi, il y a une petite donnée, c'est que sur la dimension par équipe, c'est la satisfaction de faire partie d'un collectif et de faire en sorte que ce collectif soit le meilleur du monde. Alors qu'en individuel, voilà, c'est plutôt la récompense du travail accompli, du travail de 4 années finalement. Donc, c'est des plaisirs différents, mais pas plus importants l'un que l'autre.
Ouais, pour ma part, j'ai préféré les médailles collectives, en fait, puisque puisque sur l'Indive, donc ma seule médaille en Indive, c'était à Londres, et bon, j'étais amer un peu, j'ai pas,
On va revenir dessus après.
Du moins, je n'ai pas savouré cette médaille en individuel, mais par équipe, c'est vrai qu'il y a cette dimension collective. Alors, en plus, on s'entraîne généralement en groupe, on n'est pas tout seul dans notre coin quand on s'entraîne. Et là, sur les Jeux, généralement, c'est la meilleure équipe d'équipe de France, tout simplement, et de se donner à fond pour aller chercher justement cette médaille olympique qui pour nous est le Graal, hein, contrairement à un titre de champion du monde. Donc non, non, c'est quelque chose que je dirais que je mettrais plus l'accent sur la médaille par équipe.
Collective. Par équipe, ouais. Dans la notion de partage un petit peu, justement.
Ouais,
Et de célébration, c'est plus fort.
Célébration, et que on s'est donné pour l'équipe. Moi, à chaque fois, que ce soit à Pékin, que ce soit à Londres, que ce soit à Rio, quelle que soit la composition de l'équipe, voilà, je voulais donner le meilleur de moi-même pour qu'on puisse aller chercher le meilleur résultat possible.
Sur le je ne sais pas si on peut parler comme ça, le goût de la médaille, alors vous en avez tous les trois plusieurs, donc elles ont peut-être une saveur aussi différente à chaque fois, probablement même. Michael, toi, tu te rappelles vraiment des podiums et les sensations qui t'ont un peu submergé?
Oui, je vois déjà Arnaud rigoler, mais ah. ma première médaille en 2012, donc par équipe, avec Grégory et Kevin Siro, c'était une médaille d'argent olympique. Et personnellement, mais après, je me suis rendu compte que tous les trois, on l'a vécu de la même manière, c'est-à-dire qu'on l'a vécu comme un échec. C'est tout le paradoxe de cette médaille, en fait, hein, qui était quand même une médaille d'argent. Et donc, ça a été mal vécu, ça a été difficile, alors que c'était un moment magique, hein, de monter sur un podium. En plus, moi, c'était mon premier podium, hein, olympique. Mais ce qui m'a touché au travers de ça, justement, je parlais d'Arnaud, c'est que dans la foulée, donc la soirée qui a eu lieu au Cap France, Arnaud et d'autres champions olympiques, notamment de la discipline, ont eu des mots... différent du vécu que j'avais, et pour le coup je me rends compte que c'est eux qui avaient raison, en fait. J'avais pas à vivre ça comme un échec, donc en fait ça a été le chaud, le froid en l'espace de 2 heures, quoi. Mais c'est vrai que c'est, moi à titre personnel, ça a été vécu comme un échec.
Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a toujours un peu cette sorte de paradoxe, c'est ce que tu dis, tu vois, sur la médaille d'argent, tu finis souvent par une défaite, alors que la médaille de bronze, Tu finis par une victoire. Et donc, c'est vrai que la fin, en fait, sur la victoire, te donne une joie quand même qui est assez, assez forte, alors que finalement, tu es quand même troisième et pas deuxième. Mais c'est
exactement,
vrai qu'on
c'est,
a déjà échangé. Avec le honte, c'est un petit peu ce qu'ils ont aussi, c'est ce qu'ils disaient un petit peu. Et donc, tu as besoin d'un peu de temps avant de te dire, c'est quand même fantastique et c'est génial, et ça reprend le dessus. Et justement, ça a repris le dessus quand même, on est bien d'accord. À la fin, tu as quand même cette fierté de te dire, j'ai été quand même médaillé d'argent plutôt que de bronze, tu vois.
Quelques années après quand même, mais c'est vrai
quand même.
Que ce que tu viens de dire là, justement, c'est un discours que notamment Arnaud m'a dit le soir même, quoi. La déception était aussi qu'on a quitté cette piste sur une défaite de médaille d'argent, alors que si on avait gagné la médaille de bronze, on serait sorti de la piste sur une victoire, parce qu'on aurait été en place en finale pour la place 3 et 4. Mais voilà, les mots d'Arnaud m'ont énormément touché et m'ont permis de relativiser ça aussi. Ça a mis du temps, mais c'est des mots que j'ai encore dans la tête. Et du coup, c'est lui qui avait raison. Donc voilà, ça m'a permis de relativiser ce moment vécu comme un échec. Avec mes équipiers aussi, voilà, on avait tous ce sentiment. Enfin, il suffit de regarder les photos de ce podium où il n'y a pas un sourire, alors qu'on était quand même vice-champion olympique.
Tu te rappelles de ces mots, Arnaud, de ce que tu lui as dit exactement?
Oui, c'est. Disons que c'est plus le. C'est vrai que ce soit Greg, que ce soit Michael, cette compétition a été marquée par une petite action anti-sportive pour te refaire le décor. Là, ils étaient face aux Britanniques en finale et les Britanniques ont simulé une chute au départ. Ce qui fait que Greg, Mika, Kevin, eux, ont démarré leur vitesse par équipe à fond. Ils ont joué une finale, c'était la finale de leur vie. Donc, ils ont tout donné. Sauf que bah, il a fallu au moins un demi-tour pour qu'on leur dise de s'arrêter. Donc forcément, ils y ont laissé des plumes. Et derrière, bah, les Britanniques se sont servis de ça. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être invité par le comité olympique et j'étais en plus juste devant la ligne de départ des Français lors de la finale, puisque j'étais dans la ligne opposée. Et c'est vrai que j'avais de la peine parce que je sais la dose d'effort, je sais l'énergie qu'on peut laisser sur un faux départ. Je sais aussi que cette action, elle était vraiment anti-sportive. Et d'ailleurs, les Anglais l'ont reconnu à demi-mot juste derrière. Moi, ce que j'ai dit à Michael, c'est vrai que quand on les voit sur le podium olympique, il n'y a aucun des Français qui sourit. Et moi, ça m'a fait mal parce que je sais parce que je suis passé par là, que ce podium olympique, on a la chance de le vivre peut-être une fois. Je souhaite à tous les athlètes, quel que soit le sport, d'en faire plusieurs parce que c'est des moments exceptionnels. Les Jeux olympiques ne reviennent que tous les 4 ans. Donc, c'est une expérience qu'il faut vraiment savourer pleinement, quel que soit le résultat. Et en fait, ce que je leur ai dit aux garçons, c'est que deuxième, oui, c'est un échec parce que forcément, c'est des compétiteurs, ils visent la médaille d'or, ils visent la première place. Mais il ne faut pas oublier que c'est les Jeux, qu'ils auraient été encore plus malheureux d'être quatrième, peut-être encore plus malheureux de se faire disqualifier sur un aspect tactique. Et c'est ce qui a notamment été le cas. Parce que sur cette Olympiade, ils ont été très vigilants sur les passages de relais. Il y a eu beaucoup de disqualifications et ils auraient pu quitter la compétition comme ça. Finir deuxième, oui, c'est quelque part un échec quand on vise la première place, mais ça reste une médaille olympique. Une médaille olympique, ça se savoure. On monte sur un podium olympique avec au moins la fierté d'avoir une récompense du travail. Et c'est vrai que... Un garçon comme Michael, il avait encore l'avenir devant lui, il avait encore la possibilité de corriger. Et je me souviens que voilà, je lui ai dit que c'était une déception, d'accord, c'était un moment important à vivre, il fallait le savourer. Il avait une médaille autour du cou, ce qui n'a pas été le cas de tous les athlètes potentiellement médaillables cette année-là, et qu'il fallait le vivre pleinement et que tout simplement il corrigerait le tir 4 ans après. Ça, c'est important. Il ne faut pas oublier aussi que les Jeux Olympiques, ce n'est pas uniquement des fans de vélo qui sont devant la télé, c'est aussi des gens qui adorent le sport, qui peut-être ce jour-là voulaient regarder du judo, du tennis, du volley, et qui sont tombés et qui ont. Pourquoi pas découvrir Grégory Boget, Michael Dalméda, et c'est pas simplement des millions de spectateurs, c'est des milliards de spectateurs.
Grégory, je te vois pensif à l'écoute des mots justement de Michael et,
oui,
et Arnaud.
Parce que
toi,
comment,
tu l'as vécu comme un échec aussi, cette médaille d'argent.
Ah,
est-ce,
oui,
que, est-ce que c'était, alors j'entends la petite fourberie des Anglais, et en même temps, est-ce qu'ils sont surpuissants à ce moment-là? Est-ce que c'était jouable, en fait, la question?
Non, mais
elle est là.
Le truc, c'est surtout que, comme Arnaud l'a dit, on est des compétiteurs avant tout. Bon, je ne vais pas refaire le passé du cyclisme sur piste français. Hein. Donc, on est acteurs, mais on a aussi le poids de tout ce que la piste française a pu donner. Donc, on arrive au jeu, c'est surtout pour gagner. Et comme Mika l'a dit, entre le moment où l'on fait deux, on fait une médaille d'argent, et même si on sait qu'il y a le podium, on est encore, c'est comme un chaos en fait. On est encore dans le flou, on n'arrive pas tout de suite à passer autre chose. En fait. Mais c'est vrai que avec ces mots, avec les mots de personnes qui nous sont proches, bah, ça nous a aidé à relativiser. Mais c'est un moment assez dur sur le moment parce qu'on est encore dedans, même quand on est sur le podium. Je pense que Mika ou Kevin, moi, on était encore en train de refaire la course. Mais après, voilà, ça fait partie des Jeux Olympiques. Et je le dis parce que ça m'a fallu quand même du temps pour pouvoir avoir cette réflexion-là. Mais ouais, c'est-à-dire que c'est un podium. Et surtout que, comme Arnaud l'a dit aussi, il n'y a pas forcément que des fans de cyclisme sur piste. C'est vrai que quand on est entré sur Paris, tu es confronté à des personnes, mais pourquoi tu boudais sur le podium, c'est une médaille olympique.
Ah ouais.
Tu vois dans les yeux de beaucoup de personnes que une médaille olympique, que ça soit l'or, argent, bronze, c'est ce qu'il y a de meilleur en fait. Donc,
c'est exceptionnel, ouais.
Ça t'aide à relativiser.
Et toi, justement, donc tu fais 4 médailles au jeu. pas de médaille d'or. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est laquelle est la plus savoureuse des quatre, celle qui t'a le plus marqué, enfin, tu vois, et procuré le plus, la plus belle émotion, et la deuxième juste après.
Elles sont toutes différentes, parce qu'à Pékin, c'est ma première médaille olympique. J'ai quand même eu l'expérience d'Athènes en 2004, je faisais partie de l'équipe remplaçant, donc ça m'a quand même permis d'être de meilleure disposition pour Pékin, mais je dirais quand même celle de Rio, parce qu'on a traversé des moments très durs, et d'avoir été chercher cette médaille, c'est...
Donc c'est la dernière, et c'est celle en bronze.
Celle en bronze, celle à Rio en 2016, je pense que ouais, je pense que Mika, il va me rejoindre là-dessus, c'est qu'il a vu tellement de moments durs dans cette préparation et d'aller chercher cette médaille, c'était, pour moi, c'est comme si, enfin, je ne veux pas dire que c'était comme si on était champion olympique, mais c'était un gros, gros boulot. Donc, pour moi, c'est celle que je ne veux pas dire que j'ai savouré le plus, mais j'y mets un petit étoile sur cette médaille.
D'accord. Et la deuxième question, est-ce que justement tu as fait 4 médailles, dont 3 d'argent, est-ce que tu nourris encore un peu ce regret de ne pas avoir réussi à être allé chercher l'or?
Quand on me parle de Londres, forcément ça fait ressurgir quelques souvenirs. Mais après, je suis conscient, et puis depuis tout petit, on m'a inculqué que dans le sport, il faut un vainqueur et un perdant. Et que même si on se fixe des objectifs, puisque moi, ça faisait partie de mes objectifs de carrière, de devenir champion du monde, champion olympique, eh ben, malgré tout, malgré si de votre côté, vous mettez tout en œuvre, eh ben, il y a une possibilité de ne pas pouvoir tout réussir. Donc, voilà, c'est le jeu tout simplement, mais ouais, ça arrive des fois forcément quand il y a des petits flashs sur les Jeux Olympiques de Londres. Mais bon, c'est... Je suis fier de ce que j'ai pu faire. C'est vrai que je n'ai pas été champion olympique, mais je dirais que c'est pas grave, je le vis bien.
C'était pas orienté dans ce sens. Hein. Tu peux être fier d'avoir 4 médailles. Hein. Au contraire, hein, c'est fantastique.
Oui, non,
et complètement
mais bon,
et totalement exceptionnel, hein, j'insiste.
Quand on dit 4 médailles, il y a le bronze, il y a l'argent, il n'y a pas l'or. Mais bon, moi, sincèrement, non. C'est comme je dis, des fois, il y a des flashs, ben ouais, 2012, mais bon. Comme je dis, voilà, c'est du sport, il faut un vainqueur, il faut un perdant, tout simplement.
Mmh. Moi, tu sais, j'ai que le bronze, j'en ai qu'une, et si tu savais, pour rien au monde, je l'échangerais, et si tu savais comme j'en suis fier, mon Dieu. Arnaud.
Oui.
Toi, même question. Alors, il y en a une qui est au-dessus du lot, ou pas ? Est-ce que la médaille d'or est la plus forte, ou pas forcément non plus ? Tu vois, comme l'a dit justement Grégory, et Mickaël aussi, apparemment, qui partage cette dernière médaille de bronze qui a presque pris le dessus avec cette petite étoile que l'on a collée donc sur cette médaille. Donc toi, tu les as vécues comment, tes médailles?
Alors, moi, c'est plutôt dans leur historique que j'apprécie ces médailles. Pour ceux qui me connaissent, je suis arrivé au vélo totalement par hasard. Ce n'était pas forcément une passion à la base. Je suis un vrai passionné de basket. Et effectivement, j'ai découvert le vélo à travers mon père qui était cyclotouriste et qui m'a mis sur un vélo. Et puis, hasard des choses, les premières compètes, je les ai gagnées. Donc, j'ai continué comme ça et je suis arrivé au haut niveau un peu vraiment par le plus grand des hasards. Donc, moi, ces médailles, effectivement, une en or, deux en argent, une en bronze. Donc, j'ai la possibilité d'avoir les trois métals. Ça, c'est déjà la belle satisfaction. Elles ont toutes une valeur différente parce que voilà, sur des Olympiades différentes, parce que avec des partenaires différents, dans des contextes différents, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément la médaille d'or qui est la plus pour moi la plus parlante. C'est effectivement la plus agréable parce qu'on est ce jour-là sur le toit du monde. C'était ma première médaille olympique à Sydney. Elle était par équipe, donc comme je l'ai dit, j'accorde une très très grande importance à cette épreuve parce que c'est celle qui a construit ma carrière, qui a été un peu le fil conducteur de toute ma carrière. Donc effectivement, elle était vraiment symbolique. Celle qui a une saveur particulière pour moi, c'est la médaille d'argent à Pékin. donc la toute dernière en vitesse par équipe, notamment avec Greg. Pourquoi? Parce que cette année-là, c'était une année compliquée. Et là, les deux personnes qui sont là vont pouvoir le confirmer. Sans mauvaise volonté aucune, cette année-là, notre entraîneur m'a pris en début de saison à part et m'a dit « Arnaud, cette année, je ne compte pas du tout sur toi. Si tu veux te qualifier pour les Jeux, il faudra que tu ailles chercher ta qualification. Ton passé, ton expérience, ton palmarès ne te font pas avoir de privilèges. Il faudra vraiment que tu te battes pour faire partie de cette équipe. Parce qu'il y a les jeunes qui poussent derrière toi, parce qu'on a la volonté de renouveler l'équipe de France et qu'au départ, on n'est pas forcément à 100% sûr d'Arnaud Tournant. Et donc, il faudra aller se battre. Et je sais que cette médaille, pour moi, elle représente une dernière année de préparation qui a été à 100% quasiment tous les jours. Il a fallu se battre à l'entraînement. Je me rappelle de la tête de Grégory Baugé. Il sait très bien que je n'arrivais pas à l'entraînement avec un maillot de champion du monde sur les épaules parce que pour moi, on est champion du monde, mais quand on retourne à l'entraînement, on remet tout à zéro et puis on repart de l'avant. Et je sais qu'après cet entretien avec l'entraîneur, je suis arrivé maillot de champion du monde, cuissard champion du monde, chaussettes champion du monde, les gants champion du monde, et que tout le monde m'a regardé en se disant « mais il a pété un câble, le vieux, il sent plus pisser ». Et c'est vrai que c'était histoire de remettre les choses à leur place, de dire « voilà, ok, on compte pas sur moi, pas de souci. Par contre, maintenant, on a réveillé un peu le guerrier ». Et ceux qui me connaissent savent très bien que ça, il ne faut pas le faire parce que quand le guerrier se réveille, effectivement, c'est dur de l'arrêter. Et je sais que pendant un an, à chaque entraînement, notamment Greg qui était mon binôme, parfois Mickaël, je sais que les deux, ça a été un enfer pour eux parce que je leur ai fait vivre un enfer parce que sur chaque effort, voilà, j'imposais des rythmes qui étaient monstrueux. Je ne m'épargnais pas, je rajoutais même parfois je prolongeais mes entraînements pour perfectionner un peu les choses. Et c'est vrai que d'arriver au jeu et d'aller décrocher cette médaille d'argent, pour moi, c'était une vraie satisfaction, sachant qu'on était de nouveau face aux Anglais. Et que mon meilleur tour, j'avais cette position de finisseur qui est pas la plus facile. Et effectivement, on m'a mis en balance avec Michael Bourguin qui avait fait les demi-finales. Et à chaque fois que je suis monté sur le vélo, j'ai réalisé les meilleurs temps de la compétition face à Chris Hoy qui était le cycliste référent, qui était la référence mondiale. Et à chaque fois, j'ai réalisé les meilleurs temps face à lui. Donc, j'ai envie de dire, cette médaille d'argent, elle a un côté récompense, elle a un côté médaille olympique et elle a surtout un côté, voilà, Arnaud Tournant, vous remercie, chapeau bas et à bientôt.
Est-ce que tu as l'impression, quand tu me racontes ça, moi, j'ai presque le sentiment, est-ce que tu as eu besoin, en fait, d'avoir été piqué au vif pour... Non, c'était pas nécessaire.
Non, pas du tout. J'ai pas besoin d'une carotte pour avancer. J'ai pas besoin de. J'étais un professionnel.
Donc, tu aurais tout ce que tu dis là, tu l'aurais fait quoi qu'il arrive en fait.
Comme tous les sportifs, et tu le sais, je me levais le matin pour mon travail. Je petit déjeunais vélo, je déjeunais vélo, je dînais vélo, j'allais à l'entraînement, je faisais mes cours en parallèle. Chaque entraînement, je le prenais à 100%. Et là, Greg et Miguel peuvent le dire. J'avais aussi ce rôle non officiel de lieutenant. Et tu as déjà pu l'entendre. Je suis pas du tout égoïste dans ma manière de pratiquer mon sport. J'ai toujours partagé. J'ai toujours été à l'écoute et j'ai toujours répondu aux plus jeunes pour essayer justement de transmettre un savoir parce que ça aurait été totalement injuste et hypocrite de ma part de garder pour moi tout ce qu'on m'a appris pendant des années, ce que les éducateurs, ce que les entraîneurs ont pu m'apporter et de le garder uniquement pour moi et de ne pas pas le transmettre à ceux qui allaient prendre ma suite et qui allaient avoir la responsabilité de faire tout aussi bien. Quand tu entends Michael ou Greg qui te disent à Londres, on avait ce devoir de continuer l'histoire de l'équipe de France, tu comprends bien par là que ils ont un respect des anciens, qu'ils ont bien mesuré qu'avant eux, il y a eu des champions et qu'il faut tenir le rang, quoi. Donc, c'est vrai que moi, toute ma carrière, c'est ce que je me suis efforcé de faire en parallèle de ma réussite perso, c'était de justement aider les futurs champions à devenir des vrais athlètes et des vrais performeurs.
D'accord. On va passer à la deuxième partie maintenant qui permettra, j'espère, de faire découvrir en fait les jeux de l'intérieur. Alors l'idée, c'est justement de dire, vous, c'est quoi le regard que vous avez porté alors sur votre première sélection peut-être, enfin aux Jeux Olympiques, la découverte, le village, il y a eu les podiums. Quel regard en fait, alors, c'était peut-être un rêve aussi, j'imagine, pour vous d'aller aux Jeux Olympiques. Ça représente quoi, en fait, les Jeux, concrètement, pour chacun d'entre vous? Alors, on va reprendre. Peut-être Mickaël commence. Parce que je ne sais pas si... Ouais, si on va prendre en temps de parole, on va rééquilibrer. Donc, Mickaël, enfin, toi, c'était pour les Jeux, c'est le Graal, c'est ce qu'il y a de plus haut?
Oui, pour moi, les Jeux Olympiques, c'était bien évidemment la compétition la plus importante, mais au-delà de considérer ça comme un Graal, moi, j'ai toujours considéré ça comme une responsabilité. D'être sélectionné pour représenter l'équipe de France, pour moi, c'était une responsabilité. Ce qui m'a marqué à l'intérieur du village, bien évidemment, c'est de rencontrer tout un tas de grands champions de tous les sports, pour certains que je n'ai jamais rencontrés, que ce soit des Français ou des étrangers, ce qui permet aussi de mesurer l'humilité nécessaire qu'il faut face à tous les grands champions. Et puis voilà, donc moi je suis arrivé à Londres en 2012 pour mes premiers Jeux Olympiques, en étant, pour ainsi dire, presque champion du monde en titre, avec Kevin et Grégory, mais dans notre sport. Et à ce moment-là, quand on rentre dans le village, on voit tout un tas de grands champions de toutes disciplines qui ont des palmarès bien plus imposants. Pour certains, on est en admiration devant la télé et là, on les voit en vrai. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont comme nous. C'est pas des plus grands champions que nous. Ils sont comme nous, des êtres humains identiques, avec une humilité aussi à toute épreuve. Pour donner une petite anecdote, parce que je sais que les gens croustillent de ça. Moi, ce qui m'a marqué en 2012, c'est une rencontre avec Tony Parker, qui à ce moment-là est déjà mondialement connu, reconnu, presque un people même, de par ses histoires de l'époque. Je m'en souviens, c'est pour ça que mes amis du village me demandaient « Ah, t'as vu Tony Parker et tout ?» Donc, je croise Tony Parker, j'ai des yeux de gamin face à lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'ouvre les bras en grand, il me prend dans ses bras, il me dit « Allez, les cyclistes !» Parce qu'en fait, nous, on courait l'après-midi même. Il me dit « Allez, les cyclistes, nous, on est derrière vous !» Parce qu'il avait ses copains du basket derrière. « On est derrière vous et vous allez nous taper les Anglais !» Là, je me dis « Mais comment il connaît tout ça, lui ? Il fait de la NBA, il est aux États-Unis, et il sait que nous, petits cyclistes, on va se battre pour une médaille contre des Anglais !» Donc là, j'étais... Ça m'a rendu complètement abasourdi, quoi. Mais ça a été un gain d'énergie monstrueux, quoi. Moi, je le voyais comme une star inapprochable et tout. Et puis non, c'est lui qui m'a ouvert les bras, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit « Allez les cyclistes et vous allez taper les Anglais !» Alors que nous, on courait dans 3 ou 4 heures, quoi. Je dis, mais c'est dingue. Je me dis « Mais il n'y a qu'aux Jeux Olympiques que ça peut arriver, ça !»
Et vous, Grégory et Arnaud, il y a comme ça des moments aussi un petit peu précieux que vous retenez?
Moi, les Jeux, dans ma tête, c'était Atlanta. J'avais ce souvenir-là, de m'être levé dans la nuit pour regarder les exploits de Marie-José Pérec et puis d'autres. Et puis, de 2004, comme je dis, 2004, c'était ma première expérience olympique. Donc j'ai été, malheureusement pour moi, je pensais que j'aurais pu rentrer dans l'équipe en tant que titulaire. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc je savais que j'étais sélectionné, mais simplement pour être remplaçant. J'ai un peu mal vécu au début, mais après, comme je dis, c'est l'opportunité d'aller jouer aux Olympiques. Et puis, moi, j'étais là-bas, mais du début à la fin, j'avais 10 ans, en fait. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans, pourquoi? Parce que j'étais dans la plus grosse compétition qu'il peut avoir au monde et rencontrer. Alors, moi, je suis un fan d'athlétisme, tous les sports américains, tout ça, et de voir les Maurice Greene, les. Et Alto Boldon, même nos stars français, il y avait Christine Aron, je crois encore. C'était dingue, c'était dingue. Et puis, oui, de côtoyer des personnes dans le village. Alors, nous, à Athènes, si je me souviens bien, c'est un peu différent. On était, entre guillemets, dans des petites maisons, en fait, par discipline, contrairement à après, où on était dans des bâtiments vraiment avec. On était vraiment bien mélangés, mais le fait d'être dans ce milieu, d'être. Dans cet univers. Et puis, après, forcément, sportivement, suivre de près l'équipe de France. Donc, je m'entraînais aussi avec eux, de voir dans quel état ils étaient, la veille, l'avant-veille, le jour de la compétition. Ça reste un très, très beau souvenir. Mais comme j'ai dit, depuis, je savais que j'allais faire des Jeux, enfin, que j'allais aller à Athènes. Jusqu'à la fin des Jeux, j'étais un gosse, en fait. J'étais un gosse qui portait les équipements de l'équipe de France et qui, comme Arnaud aussi l'a dit un peu plus tôt, et on sait quand même, cyclisme sur piste, on va être attendu sur les Jeux Olympiques. Donc, mais moi, je ne le perçois pas comme ça. Mais c'est en voyant les titulaires, il y avait Arnaud, il y avait Laurent Gamet, Michaël Bourguin, et puis avec des coachs, des entraîneurs comme Gérard Quintin, Daniel Moreno, donc vous sentez quand même que. C'est pas les vacances, quoi. C'est une grosse compétition. On vient pour faire quelque chose. Donc, il a fallu aussi que moi, je module un peu mes émotions, en fait. Parce que c'est pareil, quand Arnaud fait deuxième sur le kilomètre, enfin, pour moi, je me rappelle, j'étais content. J'étais comme un gosse. Enfin, oui, comme un gosse, c'est ça. J'étais comme un spectateur, en fait, finalement. Mais ça m'a permis aussi, pour 2008, d'être. Bah, forcément, je ne pouvais pas être dans le même état, même si de 2004 jusqu'à mes derniers Jeux Olympiques, forcément, tu regardes, tu vis ce moment-là. Tu sais que c'est une chance aussi de pouvoir être là parmi d'autres sportifs, mais cette chance, c'est surtout le fait de pouvoir représenter la France au mieux, en fait.
Arnaud, vous avez eu le temps, après, c'est une question aussi, mais Arnaud, tu peux répondre. Vous avez eu le temps d'aller voir d'autres sports, justement, où vous êtes vraiment focus sur votre compète et vous n'avez pas le temps?
Ouais, alors moi sur la première Olympiade, c'est vrai que je suis passé par toutes les émotions, hein, du potentiel vainqueur à celui qui termine à la cinquième place et le lendemain, celui qui devient champion olympique. Donc c'est vrai que ciné, j'avais fait le choix de repartir dès le lendemain et de ne pas vivre pleinement cette première expérience. Moi, je repense à Greg quand il dit j'étais un gamin, j'étais vraiment admirateur. Je pense qu'il tempère un petit peu ses émotions parce que moi j'ai souvenir des Jeux d'Athènes où on avait participé au défilé de la cérémonie d'ouverture et où ce que les gens n'imaginent pas quand ils ne l'ont pas vécu, c'est pour défiler entre guillemets très très peu de temps parce qu'on est grosso modo une heure et demie dans le stade. Pour la cérémonie olympique. Mais avant ça, on a attendu presque 6 heures au total entre le moment de réunion au sein du village dans le quartier français, plus ensuite le transfert au dojo pour attendre. Et là, au dojo, je pense qu'on a passé avec Greg, allez, peut-être un quart d'heure en bon élève. Et puis au bout d'un quart d'heure, on a commencé à vadrouiller un petit peu dans les couloirs. Et là, j'étais accompagné d'un gamin de 6 ans. Attention, ce que je dis n'est pas méchant pour Greg. J'étais
Au
accompagné
contraire.
d'un gamin de 6 ans parce que, limite, il a fallu que je le tienne par la main pour ne pas le perdre déjà. Alors que le gamin, il fait quasiment 100 kilos, il fait 1,83 m, donc pour le perdre, il faut le faire exprès. Mais là où c'était marrant, c'est quand on a croisé Et alors là, ça a été l'explosion. Il sautait dans tous les coins. Je ne l'ai jamais vu faire des bonds comme ça. Quand on a croisé l'équipe américaine de basket avec Iverson, Kobe Bryant, le mec, il était fou. Il était fou. Il n'en pouvait plus. Il était là avec son appareil photo et je veux des selfies et tout ça. Et je pense qu'il a sauté sur tous les joueurs américains qui ont particulièrement joué le jeu. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps maintenant, quand Kobe Bryant est décédé, c'est vrai que les photos sont réapparues sur Face et j'ai cette... Ça m'a fait plusieurs émotions déjà de me dire, voilà, on a croisé une star internationale qui a marqué son sport, qui a vraiment permis à son sport de grandir. Et ça, ces champions-là, ils sont très, très rares. Et effectivement, je me souviens de cette photo qu'on a fait avec Greg, où ce moment d'attente, finalement, a été peut-être un des plus beaux moments olympiques de cet épisode d'Athènes, parce que effectivement, j'ai vraiment vu le gamin, et c'est beau de voir que aussi les sportifs ne sont pas que des bêtes de compétition, c'est aussi des êtres humains, et c'était beau de voir Greg rêver comme ça. C'est aussi, comme ils l'ont dit, hein, c'est une chance incroyable de croiser des talents, des légendes, des vraies légendes. Pour ma part, c'est Sidney qui a été, en termes de légende, le plus révélateur. J'ai deux moments particuliers. Le tout premier, je me suis retrouvé, alors pour imaginer la chose, le self, l'endroit de restauration à Sidney, c'était une grande tente qui faisait quasiment 300 mètres de long. Avec des tables de 50 personnes et ce jour-là j'étais en décalage par rapport au reste de l'équipe de France, donc je vais au restaurant seul, je me pose à une table vide et là il y a un mec qui vient se pointer juste en face de moi. Dans un premier temps je ne lève pas la tête, je me dis mais quel couillon, il y a une table vide, le mec il vient se planter juste en face de moi. Et mon anglais était plus qu'approximatif. Et puis là, je relève la tête. Et là, j'ai failli... je ne savais plus quoi faire, en fait, parce que le fameux mec en face de moi, le fameux couillon, en fait, c'était juste Alexander Popov, l'un des plus grands nageurs de l'histoire, athlète russe, qui a été multimédaillé. Enfin, c'est lui aussi une légende. Qui était l'un des favoris en plus face aux Australiens sur cette épreuve-là. Et je me rappelle m'être posé la question de me dire, est-ce que finalement je suis à la hauteur pour manger face à ce garçon-là? Est-ce que c'est pas moi qui devrais aller un petit peu plus loin, histoire de le laisser tranquille, de le laisser apprécier son repas? Mais c'est vrai que ça a permis d'échanger deux, trois mots et c'est là où je me suis dit, mais je vis un rêve. Et ce même jour, donc une fois le repas terminé, je débarrasse de mon plateau, je sors du self et au moment de sortir, je me retrouve devant la porte et la porte s'ouvre devant moi et la personne qui venait d'ouvrir la porte, c'était Haile Gebrselassie. Quand vous avez un athlète qui fait, allez, au bas mot, 1m60, 1m65, mais qui est lui aussi une légende dans les courses de fond, dans les marathons. Quand vous avez un athlète comme Gebrselassie qui vous ouvre la porte, je peux vous assurer que vous hésitez à sortir. Déjà, vous tenez la porte et vous lui dites « Non, non, c'est à toi de rentrer. Excuse-moi, je vais te dérouler le tapis. Si tu veux, je t'aide. » Voilà, c'est juste monstrueux de se dire qu'on croise des garçons d'un tel talent, d'un tel passé sportif. Et c'est là où on relativise en disant que, bah oui, finalement, on fait partie de ce monde-là. On est comme eux et on peut juste… se permettre d'apprécier, de partager, de croiser, d'échanger avec ces talents-là, parce que c'est vraiment une chance que très peu de monde a.
Ouais, moi, je vous rejoins évidemment sur les yeux d'enfant, enfin de débarquer dans ce Disneyland pour sportifs. C'est absolument fantastique. Non, mais c'est extraordinaire et c'est presque indescriptible, hein, je crois, parce que en fait, c'est une sensation très profonde de regarder tout. Et d'ailleurs, ça peut aussi être un frein parfois à la compétition, il faut faire un petit peu attention, surtout j'imagine sur ces premiers jeux où tu peux quand même un peu te disperser, c'est clair. Et sur le truc de la responsabilité, alors moi, c'était assez marrant parce que c'est pareil, j'ai eu l'impression qu'il y avait 60 millions de personnes qui regardaient tout d'un coup le tennis en France. Et je me suis dit, j'ai pas le droit de me louper, sinon je suis foutu, j'ai pas le droit de rentrer chez moi, quoi. J'avais vraiment ce truc tous les jours qui m'animait. Alors, j'étais pas du tout favori comme vous pouviez l'être à chaque fois. Et en fait, j'ai ressenti ça. C'était très étonnant comme sensation. J'aurais bien aimé le retrouver ailleurs pour que ça puisse me sublimer de temps en temps, mais c'est pas revenu, malheureusement. Mais c'est vrai. Et après, comment vous avez vécu il y a vraiment cette grande famille, je trouve, équipe de France, au sens large du terme, où tu te dis, voilà, c'est ce que vous disiez, j'ai le survêt France, et puis il y a toutes les disciplines, il y a tous les sports, et j'en fais partie. Et je trouve que c'est aussi ce qui est fantastique. Comment vous avez vécu les autres médailles des Français? Comment vous les viviez, justement? Est-ce que vous aviez, genre, un petit peu le calendrier quotidien avec, tiens, là, il y a une demi, là, il y a une finale, tac, on essaie de se regrouper. Vous l'avez vécu comment?
Bien, quoi, je pense que, alors forcément, à l'INSEP, on côtoyait pas mal de sport olympique. Hein,
Et quand vous étiez au jeu, tu vois, quand vous étiez au jeu pendant votre compète, l'idée, c'était aussi, vous suiviez vraiment, en gros, tous les autres exploits français, tu vois,
surtout ceux qui commencent avant nous, en fait. Du début des compétitions jusqu'à nos compétitions, forcément on suit un peu les résultats des Français, forcément, et puis on est derrière, on encourage de la même façon que, comme Michael a dit, Tony Parker qui l'a encouragé pour qu'on puisse battre les Anglais, tout le monde se suit, hein, comme oui, c'est ça, c'est une équipe de France unie, hein, quel que soit le sport. Voilà, on suit les résultats de nos collègues, et puis ça aussi, ça nous booste, hein, ça nous aide aussi à forcément apporter la meilleure des choses pour l'équipe de France. Mais généralement, on le vit bien. Moi, j'ai aussi, je pensais à Alexis Vastine qui est décédé, mais je me souviens qu'à Pékin, ça m'a révolté. Et j'avais qu'une envie, c'est d'appuyer encore plus fort sur les pédales pour entre guillemets, venger cette déception. Mais oui, généralement, on suit le résultat de nos compatriotes.
Michael, toi aussi, ouais, tu as des souvenirs comme ça d'avoir suivi quelques médaillés, quelques parcours français,
Comme l'a dit Greg, moi, en tant que fan de sport, hein, avant tout, hein, et puis là, au cœur de là où tout se passe, finalement, où on peut côtoyer tout le monde, ne serait-ce que pour pas me retrouver con devant quelqu'un qui vient juste d'être médaillé ou champion olympique, j'essayais de suivre quelle finale avait lieu quel jour, et puis bien sûr de les soutenir. Si on sait qu'il y a une finale de judo dans l'après-midi et que le matin, comme l'a dit Arnaud, on est assis au petit-déj avec eux, voilà, c'était un petit mot d'encouragement. Et puis bien sûr, si on les revoit le soir ou le lendemain et qu'il y a une médaille, c'est une célébration, parce que c'est ça aussi l'esprit olympique et puis l'équipe de France, quoi. Donc là, on parle que des Français, mais ça peut aussi être avec d'autres étrangers. On a des préférences sportives ou des admirations particulières envers certains sportifs. Voilà, mais c'est sûr qu'il y a toute cette émotion qui jaillit. Et puis nous, comme Greg l'a dit et Arnaud, nous, on le faisait, mais les autres sports le faisaient aussi. C'est ça qui est beau. Et donc, au sein d'un village olympique, on se sent vraiment, on sent toute cette ferveur. Et puis le nombre, surtout. Moi, quand j'ai vécu mes premiers Jeux, j'étais habitué à faire la plus grosse compétition qui était, c'était les championnats du monde. Dans notre hôtel, il y avait quelques nations, ils n'étaient pas là pour nous encourager. Donc, les Français les Français eux-mêmes cyclistes, certains encouragent, d'autres non. Alors là, aux Jeux Olympiques, quand il y a tout un tas de sports qui viennent, qui vous disent « Allez, c'est quand vous courez, vous ?» On dit « Ah, c'est après-demain. Ah, d'accord, et tout. » Et puis le lendemain, quand on a une médaille, ils viennent nous féliciter et que nous, on le fait, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Et puis ça permet de créer des liens, de tisser des liens avec des gens pour lesquels on s'est entrevus, on s'est croisés. Et puis là, au jeu, il se passe autre chose, quoi. C'est l'accolade, c'est la félicitation réciproque, c'est l'encouragement. C'est des moments vraiment magiques, particuliers, parce que je pense que ça, on ne peut pas le vivre ailleurs qu'aux Jeux Olympiques. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le vivre ailleurs qu'aux Jeux Olympiques. Mais non, c'est des moments magnifiques, inoubliables. Et puis, je souhaite à tout à chacun de pouvoir vivre ça aux Jeux Olympiques, quoi.
Arnaud, justement, sur Sydney, ouais. Donc, où nous étions, Tu vois, il y avait au village, il y avait une salle de kiné où finalement tous les athlètes de toutes les disciplines pouvaient justement se retrouver. Donc, on était vraiment les uns à côté des autres et peu importe justement le sport. Et il y avait des téloches. Et c'est là où je trouvais enfin, un moment un peu privilégié. J'ai ce souvenir de me dire, tiens, voilà, et tu regardes la lutte, la boxe. En fait, c'est plus du tout, je trouve, ce que tu préfères dans l'année comme sport, que tu regardes tout, en fait, tous les Français qui peuvent à un moment donné aller décrocher un truc, qui avancent et tu te dis, et, je sais pas, il y a cette espèce d'unité, en fait, qui se crée, et peu importe, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien, on est tous ensemble et c'est juste génial. Et tu discutes avec ton voisin, tu regardes, tiens, tu fais quoi, toi, de l'athlète, t'es sur 100, 200 par équipe. En fait, c'est aussi ça qui je trouve fantastique, enfin, voilà, au jeu. Enfin, moi, j'ai vécu ceux de Sydney en qualité d'athlète et après, j'étais plus dans l'encadrement. Sur Londres et Rio, mais c'est vrai qu'en tant qu'athlète, là, c'était fou. Alors, les jeux de ciné, j'ai trouvé ça absolument dingue. Mais tu vois, c'est pour ça, j'ai l'impression, enfin, c'est pour ça que cette question, elle était orientée en disant, mais ah, tu regardes tout, en fait. Il y a plus de sport que t'aimes. Enfin, alors, on est passionné de sport, tous, j'imagine, mais quand même, plus ou moins, il y a des sports que tu regardes moins dans l'année, on va pas se mentir. On n'est pas tous non plus fondus de tous les sports. Et je ne me vexerai pas si vous dites que vous ne regardez pas le tennis, par exemple, tu vois. Mais tu vois, c'est ça. Et il y a un moment, là, tu regardes tout, tout. C'est génial. Tu as envie de tout regarder, de tout soutenir et d'encourager les tiens, quoi. C'est les tiens.
C'est sûr que c'est ce qui fait pour moi, hein, après je pense qu'on partage tous le même sentiment, mais la dimension olympique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, on oublie notre propre monde. Je prends ton exemple, c'est vrai que vous, les tennismen, vous êtes toute l'année à droite, à gauche, vous passez la moitié de votre vie dans des avions, vous êtes sur des tournois où vous êtes alors sur les grands tournois avec la partie féminine, mais souvent vous êtes isolés les uns avec les autres et en fait, vous restez, ce qui est normal, dans votre cocon tennistique. Et effectivement, la beauté des jeux et ce que nous, tous les trois, on a pu connaître grâce à l'INSEP, c'est de vivre avec des athlètes. Enfin, moi, je sais que j'ai passé quand même pas mal d'années à l'INSEP et ça me choquait pas de croiser des David Douillet, ça me choquait pas d'être au bâtiment des mineurs avec des Richard Gasquet, ça me. Voilà, ça faisait déjà partie de mon quotidien, mais c'est vrai que la dimension olympique, comme tu le dis, il y a des lieux références. Il y a cette salle de kiné, il y a ce village avec des quartiers par nation. Donc, effectivement, dès que tu sors de ta chambre, tu croises non seulement tes collègues cyclistes, mais tu croises aussi des escrimeurs. Enfin, moi, j'ai des souvenirs incroyables et j'ai vraiment passé des bons moments, j'ai eu des très belles discussions avec d'autres athlètes. Ça m'a permis d'enrichir aussi ma pratique parce que quand on échange entre cyclistes, c'est généralement du très très pointu, c'est du détail, c'est de la perfection. Alors que quand on échange avec d'autres sportifs, ça permet peut-être de remettre en perspective ce qu'on fait nous dans notre entraînement, d'essayer de transposer certains gestes ou certaines attitudes que eux ont dans leur sport et d'essayer de trouver si justement ces gestes, ces habitudes, si on ne peut pas les intégrer nous dans notre pratique. Moi, j'ai souvenir, je pense que tu l'as vécu aussi, mais à Sydney, on avait un Club France qui était pas très loin d'Harbour Bridge et des super quartiers. Donc, ça a été vraiment une super. Super opportunité de découvrir. On était dans un pays qui est ultra sportif. Je pense que voilà, la population sportive la meilleure au monde, ça reste la population australienne. Dès l'arrivée à l'aéroport, moi, enfin, j'ai été baigné dans cette ambiance sportive. Je me souviens avoir fait des émissions télé avec des Vincent Moscato, avec des choses incroyables que j'ai pu découvrir sur ma première Olympiade. Mais voilà, c'est un tel bonheur de partager. À Athènes, j'ai souvenir aussi qu'on avait tous les jours. Dans le quartier français, un petit résumé des finales du jour. Donc, ça permettait aussi de suivre un peu l'actualité, de pouvoir un temps décrocher de sa propre compétition, de voir ce que faisaient les autres et aussi se dire, bah, Ah oui, effectivement, aujourd'hui, si j'ai 2-3 minutes, il faudrait que j'essaye de voir à telle heure le combat de un tel. Et ça, c'est des super moments.
Le temps file, faut que j'accélère un petit peu, me
Et
dit-on
je
dans
prends beaucoup la
l'oreillette.
parole, désolé.
Non, non, pas du tout, au contraire, c'est très bien. Non, non, mais attends, c'est parfait, c'est un super témoignage, au contraire. Mais les médailles, vous les avez fêtées dignement?
Joker.
Joker pour Arnaud, Grégory? Ça...
Joker aussi.
Non, attendez, on va pas. Le hand s'est livré, hein, attention. Hein.
D'accord.
Et la
Ouais,
natation va se livrer aussi bientôt.
est-ce qu'on peut faire passer un petit logo, l'abus d'alcool est dangereux pour la
Ah
santé?
bah là, c'est même pas nécessaire. Moi, je peux te dire qu'à Sydney, j'ai deux nuits blanches dans les pattes derrière sur le podium. Je m'en rappelle même pas tellement je suis explosé. Tu vois, donc vous pouvez. Sur le moment, enfin, il y a quand même la décompression et il y a le lâcher prise. Vous
Greg,
l'avez aussi?
c'était bien à Athènes, le port du Pirée.
Ah, une petite perche qui est tendue apparemment.
Ouais, non, mais en fait, non, mais c'est plutôt bon. Alors oui, il y a la médaille pour. On a eu des médailles hein, à chaque fois, mais c'est surtout, voilà, on relâche tout en fait. On relâche tout et derrière, bah oui, derrière, on profite. Hein, on profite parce que c'est des jeux. Et encore une fois, on vit un moment extra et que, ouais, on essaie de profiter de tout. Moi, je me souviens qu'à Athènes, bah, c'était remplaçant aussi, hein, mais ouais, à l'époque, je parle pas trop anglais. Ce qu'il faut pas oublier, c'est surtout l'accréditation, là. Si on n'a pas ça, là, on est foutu. Je m'en souviens d'avoir passé, on était parti dans une soirée, voilà, ça s'est bien passé. Et puis, je suis reparti avec une femme, je ne sais même pas où elle m'emmenait, tout ça. Je me lève le lendemain matin. Ah bah, à l'époque, bah, les téléphones, ils ne tiennent pas, ils tiennent pas. J'ai pas mon chargeur, j'ai plus de batterie, je suis en tenue de soirée. Je crois que c'était le jour du Kérin, peut-être, ouais, le jour du Kérin. Je peux pas aller au village puisque l'entraîneur est censé m'attendre à la piste. Alors, bon, je me débarbouille et tout, je me démerde comme je peux pour aller à la piste et tout. J'étais en tenue de soirée, j'ai fait genre, j'étais bien, tu vois, j'étais bien. À l'époque, ils faisaient pas trop attention par rapport aux tenues. Normalement, j'aurais dû garder ma tenue de l'équipe de France, mais c'était un. Oui, bon, il y a Athènes, mais il y a d'autres anecdotes. Je laisserai d'autres parler, mais ouais, c'est clair que
Tu fais la passe à Michael, c'est ça?
derrière ça, on décompresse beaucoup, on décompresse beaucoup, et puis on essaie de profiter, on s'amuse avec les Français, les autres étrangers aussi qui ont fini leur compétition. Et ce qui est paradoxal, c'est que généralement, on finit vos compétitions, mais il y en a d'autres qui sont en compétition. Et généralement, on dort pas, on fait des nuits blanches hein, quand même. On fait des nuits blanches, donc quand on rentre le matin au village, ça peut arriver qu'on croise d'autres sportifs qui, eux, vont faire leur compétition.
Ouais, c'est ça. Toi, Michael?
Oui,
Les
bon,
médailles bien fêtées.
j'ai pu fêter les médailles. Bon, bah, à chaque fois que j'ai obtenu une médaille, c'était le début de notre discipline. Hein, ça commençait toujours par la vitesse par équipe. Donc, moi, je préférais attendre de fêter la médaille, bah, notamment avec mes collègues hein, de podium et de beuverie. Donc, je devais attendre la fin de leur programme. Donc, bon, bah voilà, je faisais le job jusqu'au bout. Bah, en plus, j'étais toujours en chambre bah, avec Greg. Hein, donc, voilà, au lendemain d'une vitesse par équipe, et ben, j'allais me coucher avec lui normalement parce que lui, il recourait le lendemain ou sur le lendemain. On jouait le jeu jusqu'au bout parce que moi, j'avais toujours pas débranché. J'étais toujours encore dans le truc. Voilà, on est une équipe, j'étais dans le truc. Après, une fois que tout s'est fini pour tout le monde, bon, bah, on est toujours une équipe. Et voilà, et puis bah, c'est là qu'on part profiter, décompresser.
C'est sûr, parce que moi, je n'ai pas souvenir de t'avoir vu dormir en même temps que moi, pour la journée par équipe.
Avant?
Non,
Je sais plus, je sais
mais
plus.
Michael, t'inquiète pas, c'est le borgne qui reproche à l'aveugle ça, tu
Voilà. Non, et puis bon, comme tu as dû le vivre aussi avec le tennis, hein, voilà, quand tu es médaillé, tu es du bon côté de la barrière et voilà, tu vis les choses aussi différemment, tu es regardé différemment. Donc voilà, moi j'ai des excellents souvenirs de chacune des soirées qu'il y a pu y avoir, où on était vu comme des médaillés olympiques, hein, ce qui n'est pas désagréable hein, comme vision. Donc voilà, on savait profiter entre nous. On savait profiter avec les autres qui avaient fini leur compétition. C'était des moments géniaux, quoi. Après, comme l'a dit Greg, il fallait être quand même vigilant au moment de rentrer au village, parce qu'on pouvait être amené à croiser, parce qu'on rentrait très tôt le matin, on pouvait être amené à croiser certains athlètes qui, eux, allaient concourir. Donc, bon, il fallait quand même faire aussi attention à ça, ne serait-ce que pour pas qu'eux y débranchent et de maintenir cette atmosphère quand même de haut niveau. Après, une fois qu'il y a la cérémonie de clôture, ouais, voilà, c'est autre chose. Et là, vous connaissez mieux que moi.
Voilà, on va pas en parler, je te rassure. En conclusion, si vous deviez garder une image de vos jeux, une image parmi tous les jeux justement auxquels vous avez participé, c'est pas facile, c'est une question difficile en effet à chaque fois. C'est un podium, un moment, un instant, une photo. C'est un petit peu libre à chacun justement de choisir si demain, là, comme ça, quand vous pensez aux Jeux Olympiques, vous vous dites, tiens, c'est ce moment qui revient. Ça serait quoi l'image?
Moi, loin de ça, bah, on a parlé hein, de la déception de la fée du Zièvre, mais pour moi, ça reste un grand moment parce que bah, je suis dans un vélodrome et tu vois le monde plein à craquer, alors essentiellement d'anglais, mais
L'atmosphère.
voilà, il y a quelque chose, tu vois. Moi, j'ai l'impression, bah, en fait, j'ai l'impression de me retrouver dans un stade de foot anglais, en fait. J'aime le foot aussi et puis surtout de. Tu te dis, mais putain, les mecs, ils sont vraiment reconnus à leur juste valeur, en fait, tu vois. Et pour avoir couru un peu enfin, partout à travers le monde, c'est pas ce que j'ai toujours senti, mais Londres, ça reste un grand souvenir olympique parce que, ouais, c'était superbe de se battre ben, face aux Anglais. Hein, et bon, même si on a perdu, mais ça reste, moi, mon. Je dirais que, ouais, c'est bon, mon plus beau moment.
Michael.
Le plus beau, ouais, c'est dur
Une
à dire.
image. Non, j'ai pas dit le plus beau. C'est
Ah.
vraiment c'est une image en fait qui vous a marqué d'ailleurs parce que là, ce que tu décris, Grégory, c'est pas forcément ton plus beau moment. Enfin, en tout cas, pas le meilleur en émotion parce que ce que tu dis,
Non,
mais
mais
dans l'atmosphère, le côté
ça reste
électrique,
beau quand même. Ouais,
c'est fort. C'est
c'est.
fort.
Ah ouais.
Ouais, bah moi, il y en a tellement, mais bon, un qui est encore peut-être chaud, c'est à Rio. Où finalement on se retrouve pour aller chercher la médaille de bronze en place 3 et 4. C'est un moment difficile parce qu'on se dit que il peut tout se passer. On peut être médaillé comme on peut être quatrième et personne ne se souviendra de nous. Et ce qui m'avait marqué, c'était cette atmosphère autour de nous où personne ne croyait en nous. Enfin, je parle de ce présent, en tout cas dans le vélodrome, hein, notre staff, nos équipiers, qui étaient censés être nos équipiers. Et voilà, moi c'était un sentiment au moment de me sentir seul, seul au monde, livré à moi-même. Dans 5 minutes, on monte en piste, on est médaillé ou on ne se rappelle pas de nous. Et là, je tourne les yeux, je vois Greg, il me regarde. Juste cet échange de regard, il s'est passé un truc. Et là, je ne me sentais plus du tout seul. Je me suis dit, il est là. Son regard, il voulait tout dire. Et je me suis dit, c'est bon, cette médaille, on va la faire, quoi. C'est juste été un regard, il n'y a pas eu un mot, juste un regard. Et 5 minutes après, on était médaillés.
Magnifique. Et toi, Arnaud, le mot de la conclusion?
C'est dur de choisir parce que là, j'ai vécu 5 Olympiades, alors 3 en tant qu'athlète, un en tant que supporter invité et le dernier en tant que consultant et où j'ai vécu Rio. Avec beaucoup d'émotions partagées. C'est dur, c'est très très dur la question que tu me poses de choisir un moment parce que si je peux, je vais résumer à deux choses. La première, c'est effectivement cette première médaille olympique à Sydney où un journaliste que j'apprécie beaucoup, qui est Thierry Adam, en zone mixte, juste avant le podium, c'est lui qui m'a fait prendre conscience de la dimension olympique. Parce que quand il me dit, est-ce que tu ressens ce que symbolise cette médaille? Et je lui dis, bah, tu sais, j'ai déjà été champion du monde plusieurs fois déjà. Et pour moi, c'est la même chose. Les adversaires sont les mêmes, la discipline, elle est la même. Pour l'instant, je ne vois pas trop la différence. Et c'est lui qui m'a fait percuter de me dire, Tu sais, là, il y a des gens devant la télé qui sont peut-être supporters de volley, de tennis, de judo, et eux, ils vont te regarder. Et il n'y a pas juste des millions de personnes devant la télé, il y a des milliards de personnes. Et c'est là où j'ai pris conscience de la dimension olympique. Donc ça, c'est un moment qui est au-delà de la médaille. C'est de vraiment ressentir ce que représentent les Jeux. Et puis, il y a une deuxième petite chose. C'est cette médaille d'argent à Pékin qui était pour moi la fin de ma carrière. Je l'avais annoncé en amont. J'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, bataillé très, très dur pendant une année avec des gens qui m'épaulaient, comme Greg, comme Mickaël, qui comprenaient ma situation et qui, malgré le fait qu'on soit partenaire d'entraînement, parfois adversaire sur les courses, ont toujours été à mes côtés, ont toujours été... des coéquipiers sur lesquels je pouvais, même si j'étais le plus ancien, pouvais m'appuyer. On échangeait beaucoup. On a ce trio, et merci Eurosport de l'avoir reformé aujourd'hui, parce que pour moi, c'est le plus beau trio que j'ai connu durant toute ma carrière. C'est des garçons, la Sugar Team qui a été reconstituée aujourd'hui, et c'est des garçons de qualité. Et c'est vrai que je me rappelle une petite chose que des coureurs étrangers m'avaient dit après la médaille et que Greg m'a dit avec aussi les larmes aux yeux. Et attention, c'est là aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément. Je me souviens que Greg m'a dit « tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas arrêter, tu te rends compte, cette année-là, on est champion du monde, on est vice-champion olympique à quasiment rien ». Et je l'ai vu avec les larmes aux yeux à essayer de me convaincre de rempiler et de me dire non parce que je suis un peu essoufflé, je suis surtout mentalement essoufflé, j'ai plus de 15 ans de haut niveau derrière moi, j'ai une future vie à essayer de construire, je me dois aussi de passer un relais, je me dois... Pour moi, mon travail avec ces deux garçons, il avait été, il prenait tout son sens avec l'arrêt de ma carrière, parce que c'est ce jour-là aussi où ces garçons-là, je leur ai dit, c'est à vous de prendre les clés de la maison et de construire quelque chose. Et pour moi, c'est une symbolique qui est très très forte, et c'est pour ça que c'est, je le dis avec une sincérité, mais vraiment très importante aujourd'hui, parce que. Ces deux garçons que vous avez devant vous, c'est des mecs en or, c'est des mecs avec des gros cœurs. Et je les ai quittés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, mais aussi une grande sagesse de me dire ils sont prêts et la voie, elle est tracée pour eux. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour les aider. Et ça, c'est vraiment, au-delà de la médaille, encore une fois, quelque chose de très, très fort.
Messieurs, merci. Vous formez une bien belle équipe, en tout cas tous les trois. Merci pour vos témoignages, pour votre complicité et pour vos sourires. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci mille fois d'avoir participé à ce podcast.
Merci beaucoup.